En préparant ce témoignage, j'ai repensé à ce qui m'a permis de m'approcher du Christ et de lui poser dans ma jeunesse la question du sens de ma vie. Jean-Paul II, au numéro 7, nous y invite lorsqu'il dit « Dans le jeune homme que l'évangile de Matthieu ne nomme pas, nous pouvons reconnaître tout homme qui, consciemment ou non, s'approche du Christ, rédempteur de l'homme, et qui lui pose la question morale. » Pour le jeune homme, avant d'être une question sur les règles à observer, c'est une question de plénitude de sens pour sa vie. Je pense à deux événements qui ont marqué la vie de ma famille. Ma grand-mère paternelle était orpheline de père de la guerre 14-18. Mariée, elle se trouve enceinte quand mon grand-père part à la guerre en 1939. Les services de l'armée, après la débâcle, lui ont annoncé que son mari était mort, et tout portait à le croire. Mais elle croyait que Dieu ne pouvait pas permettre pour son enfant, qu'elle attendait, la même épreuve qu'elle avait souffert, à savoir d'être orpheline de père. Dans son cœur, elle croyait que Dieu ne permettrait pas cette épreuve deux générations de suite. Ce n'est peut-être pas un absolu. Toujours est-il qu'elle a cru qu'il était vivant, et de fait, il a pu rentrer à son foyer. Elle pensait que c'était logique parce que Dieu est bon. Un autre événement a marqué leur vie. Ils ont perdu une petite fille de 2 ans d'une maladie inguérissable. Et cela a été un tournant qui leur a fait considérer que la vie éternelle existe et qu'il faut la préparer. La question du jeune homme, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» était présente dans notre vie de famille, et nous comprenions qu'il fallait que nous nous tournions vers le Christ pour recevoir de lui la réponse sur ce qui est bien et sur ce qui est mal. Jean-Paul II, au numéro 10, explique que l'Église, instruite par les paroles du Maître, croit que l'homme a comme fin ultime de son existence d'être à la louange de la gloire de Dieu, en faisant en sorte que chacune de ses actions soit le reflet de sa splendeur. Et il cite saint Ambroise. Donc, connais-toi toi-même, ô belle âme, tu es l'image de Dieu. Connais-toi toi-même, ô homme, tu es la gloire de Dieu. De fait, c'est en l'homme que la grandeur de Dieu se manifeste de la manière la plus visible, à travers l'exercice de sa volonté libre dans l'amour, et donc à travers sa vie morale orientée vers le bien. « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, » répond Jésus au jeune homme. Dieu avait déjà répondu à la question du bien en créant l'homme et en l'ordonnant avec sagesse et avec amour à sa fin par le moyen de la loi inscrite dans son cœur, donc c'est ce qu'on appelle la loi naturelle dont on a parlé dans les sessions précédentes. Donc je rappelle peut-être que celle-ci n'est rien d'autre que la lumière de l'intelligence infusée en nous par Dieu. Grâce à elle, nous connaissons ce que nous devons accomplir et ce que nous devons éviter. Cette lumière et cette loi, Dieu les a données dans la création. Et il les a données ensuite au cours de l'histoire d'Israël, en particulier par les 10 paroles, les 10 commandements du Sinaï, par lesquels il a fondé l'existence du peuple de l'Alliance. Ces 10 commandements sont en vue de la sainteté. Notre père fondateur s'étonnait que certains disent « l'amour ne commande pas ». Alors que font-ils des 10 commandements? L'alliance avec le don de la loi et des commandements est le moment clé de la vie de Moïse. Les commandements étaient répartis sur 2 tables. On distingue la première qui regroupe les 3 premiers commandements qui sont sur l'amour de Dieu et la deuxième qui regroupe les 7 suivants qui sont sur l'amour du prochain. Et donc, ces 10 commandements sont en vue de l'amour. Amour de Dieu, amour du prochain. Lorsque le jeune homme demande à Jésus quel commandement il doit observer, Jésus revient à l'essentiel. Il ne lui parle pas des 613 commandements de l'Ancien Testament, d'après le nombre que certains exégètes ont trouvé. Il lui parle de ceux qui sont le fondement de toute la vie morale, les 10 commandements, on dit encore les 10 paroles, et donc le mot décalogue, 10 paroles. Et nous retrouvons les 2 tables de la loi dans les 2 réponses de Jésus. D'abord, Jésus oriente le regard du jeune homme vers Dieu en lui disant « un seul est le bon ». Et puis ensuite, les commandements du décalogue qui ont trait au prochain. « Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Les commandements rappelés par Jésus à son jeune interlocuteur sont destinés à sauvegarder le bien de la personne, image de Dieu, par la protection de ses biens. Ces commandements, rappelés donc, sont des normes morales formulées en termes d'interdits. Donc on les appelle préceptes négatifs. Ils sont comme des garde-fous aux fenêtres. Mais comme cela vient d'être dit, ils expriment surtout donc comme une barrière qu'il ne faut pas franchir. Mais on peut exercer ces commandements d'une manière plus grande et plus belle. Ils représentent la condition de base de l'amour du prochain, et en même temps, ils en sont la vérification. Saint Augustin y voit comme une première étape nécessaire sur le chemin vers la liberté. Il dit « La première liberté, c'est donc de ne pas commettre de péchés graves, comme l'homicide, l'adultère, les souillures de la fornication, le vol, la tromperie, le sacrilège et toutes les autres fautes de ce genre. Quand un homme s'est mis à renoncer à les commettre, et c'est le devoir de tout chrétien de ne pas les commettre, il commence à relever la tête vers la liberté, mais ce n'est qu'un commencement de la liberté. Ce n'est pas la liberté parfaite. L'Ancien et le Nouveau Testament affirment explicitement que sans l'amour du prochain qui se concrétise dans l'observance des commandements, l'amour authentique pour Dieu n'est pas possible. Saint Jean l'écrit avec une force extraordinaire. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne saurait aimer le Dieu qu'il ne voit pas. Et l'évangéliste se fait écho de la prédication morale du Christ, exprimée dans la parabole du bon samaritain et dans le discours du jugement dernier. Dans le discours sur la montagne, qui constitue la Magna Carta de la morale évangélique et où on trouve donc les béatitudes, Jésus dit « N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Commentant l'affirmation de saint Paul, la fin de plénitude de la loi, elle s'accomplit dans le Christ du fait qu'il est venu non pour supprimer la loi, mais pour la porter à son accomplissement. De la même manière qu'il y a un Ancien Testament, et que toute vérité cependant se trouve dans le Nouveau Testament, ainsi en est-il de la loi, celle qui a été donnée par l'intermédiaire de Moïse est la figure de la vraie loi. Tout cela, je l'ai observé, que me manque-t-il encore, dit le jeune homme. Jésus porte à leur accomplissement les commandements de Dieu, en particulier le commandement de l'amour du prochain, en intériorisant et en radicalisant ses exigences. L'amour du prochain jaillit d'un cœur qui aime, et qui, précisément parce qu'il aime, est disposé à en vivre les exigences les plus hautes. Jésus montre que les commandements ne doivent pas être entendus comme une limite minimale à ne pas dépasser, mais plutôt comme une route ouverte pour un cheminement moral et spirituel vers la perfection, dont le centre est l'amour. Vous savez qu'une manière de faire son examen de conscience pour préparer une bonne confession consiste à reprendre les commandements en poussant un peu dans la direction qu'ils indiquent. Et en cela, donc, on reprend ce que Jésus lui-même a fait. Ainsi, le commandement « tu ne tueras pas » devient l'appel à un amour prompt à soutenir et à promouvoir la vie du prochain. Le précepte qui interdit l'adultère devient une invitation à un regard pur, capable de respecter le sens sponsal du corps. Jésus dit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres, « Tu ne tueras point, et si quelqu'un tue, il en répondra au tribunal. Eh bien moi je vous dis, quiconque se fâche contre son frère en répondra au tribunal. Vous avez entendu qu'il a été dit, « Tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi je vous dis, « Quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. » Dans ce sens-là, j'ai vu quelques attitudes qui m'ont marqué. Je suis d'une famille nombreuse. Je ne sais pas comment vous avez grandi, mais quand nous entendions dans l'Évangile Jésus dire « Si quelqu'un se fâche contre son frère », cela était très concret pour nous. Et j'ai été marqué par la patience de mes parents, donc j'ai envie de dire avec le temps. Maman essayait souvent de faire preuve de sagesse en tranchant les questions litigieuses. Et papa essayait plutôt de nous faire voir plus loin pour que nous apprenions à dépasser nos disputes. Notre grand-père nous disait parfois « Quelle importance cela a-t-il pour ta vie éternelle ?» Alors sur le coup, cela nous faisait plutôt enrager davantage. Mais quand le calme était revenu, je pense que cela nous a fait beaucoup réfléchir. Cette ouverture de la loi sur un dépassement par amour nous a aidés mes frères et moi. Je pense aussi à des personnes qui nous ont invités à les accompagner de temps en temps à la messe en semaine. Cela nous aidait à voir la messe autrement que le devoir de sanctifier le jour du Seigneur. En famille, il nous est arrivé de nettoyer une église de campagne avant une messe, et ce n'était pas du luxe. Cela pouvait illustrer le commandement « Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout ». Je pense aussi au cas d'une personne de la famille qui s'était donnée à Dieu et à qui il n'a pas été permis d'aller jusqu'au bout, sans raison valable apparemment. Un de ses proches, que nous connaissions très bien, s'était alors engagé à compenser en disant chaque jour certaines prières jusqu'à sa mort. Dieu n'est pas qu'une idée. Il nous commande de l'aimer, lui qui nous a tant aimés, car c'est là pour nous la vie éternelle. Pour terminer, je voudrais dire que ma famille a été très heureuse de connaître le Père et de trouver en lui un vrai soutien pour notre vie morale plein d'équilibre. Donc le Père était plein d'équilibre. Nous nous sentions 100% à l'aise quand nous étions à Saint-Pierre de Colombier une fois par an. L'avoir rencontré nous permettait de tenir bon. Oui, plus de 80% des Français ne vont pas à la messe le dimanche. Oui, le nombre de divorces dépasse le tiers des mariages. Oui, nous sommes dans un monde pourri et la pornographie fait un mal immense. Oui, nous pouvions nous sentir isolés en tant que jeunes à la messe. Etc., etc. Oui, mais l'avenir n'est pas là. Le bonheur ne viendra pas de cette manière. Le Père était témoin de l'espérance du règne de Dieu demandé dans chaque Notre Père. Et donc, à travers quelques phrases qu'il disait à un ou deux repas qu'on pouvait avoir soit avant, donc à ce moment-là c'était la colonie de vacances, soit après, il envisageait un renouveau, il en témoignait tout simplement, qui prendrait du temps pour être mis en œuvre, mais qui n'était pas très éloigné, et ce renouveau ne pourrait se réaliser que dans l'observation des 10 commandements, en vue de la vie éternelle. Comment ne pas penser à lui quand nous chantons le psaume 91 « Vieillissant, il fructifie encore, il garde sa sève et sa verdeur, pour annoncer « Le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu, mon rocher. » Le Seigneur ne ruse pas avec nous. Il nous rappelle les commandements pour que nous ayons la vie éternelle. Par la grâce, la vie éternelle commence dès cette terre. Quelle joie d'avoir eu le témoignage du Père qui, à la suite de Jésus, a annoncé que le Seigneur est droit. Quelqu'un qui nous a appris à nous appuyer sur le rocher, un fondement solide pour entrer dans la vie éternelle.
Voilà, merci Frère Michel. Donc après ce témoignage sur les commandements de Dieu,